Chapitre 7 Témoignage. Cela fait-il mal? Tu es capable d'éprouver la douleur?
Pas comme les humains, non. Mais je comprends le sentiment que vous devez...
Alors pourquoi me poser la question? Ce que je répondrai resterait lettre morte pour toi.
Un long silence suivit ces paroles. Vivacia croisa ses bras lisses sur sa poitrine et braqua le regard droit devant elle en luttant contre la marée de chagrin et de désespoir qu'elle sentait monter en elle. La situation ne s'arrangeait pas entre Yéma et elle. Chaque jour qui passait depuis leur départ de Cresson voyait grandir la rancœur du jeune garçon contre elle, et les moments agréables qu'ils auraient pu connaître ensemble n'étaient que de longues heures de torture. Le vent qui soufflait du nord les poussait vers des climats plus chauds. Le temps était clément, mais tout le reste allait mal. L'équipage était brouillé avec Yéma et, par conséquent, avec Vivacia. En écoutant les conversations, elle avait reconstitué les événements qui s'étaient déroulés à terre, et, à sa façon limitée, elle en avait saisi la portée. Yéma, elle l'avait lu en lui, pensait toujours que sa décision avait été la bonne, et les mémoires dont elle était dépositaire lui disaient que son grand-père aurait été d'accord avec lui. Mais le fait de savoir que l'équipage le considérait comme un lâche et que son père partageait apparemment cette opinion suffisait à le rendre profondément malheureux, et il n'en fallait pas plus pour qu'elle-même se sente tout aussi misérable. Pourtant, malgré sa détresse, il n'avait pas baissé les bras, ce qui, selon Vivacia, forçait le respect pour l'esprit qui l'habitait. Repoussé par ses camarades de bord, contraint à une existence qu'il ne pouvait aimer, il persistait néanmoins à travailler dur et à apprendre. Il obéissait aux ordres aussi promptement que les autres marins et s'efforçait d'effectuer chaque jour sa pleine part de corvée. Il était à présent aussi compétent que n'importe quelle mousse et il était en passe de maîtriser toutes les tâches d'un matelot expérimenté. Utilisant son cerveau autant que ses muscles, il comparait la façon dont son père manœuvrait les voiles avec la manière de commander de son grand-père. Une partie de son ardeur provenait de sa formation, qui suscitait en lui le besoin constant de profiter de toutes les occasions d'apprendre. Privé de livres et de manuscrits, il s'imprégnait des leçons du vent et des vagues, et il acceptait les durs travaux du bord comme il acceptait naguère au monastère les basses corvées du verger. Ses devoirs faisaient partie intégrante de l'existence du matelot et du moine. Il fallait les accomplir, et les accomplir bien. Mais Vivacia le savait, il y avait un autre motif à sa volonté d'apprendre à fond le métier de marin. Par ses actes, il s'efforçait de montrer à l'équipage qu'il ne craignait pas de prendre des risques quand ils étaient nécessaires, et qu'il ne méprisait pas le travail du bord. C'était le sang vestrite qui lui raidissait la nuque et lui permettait de garder la tête droite malgré le dédain de Torg et de ses compagnons. Il ne pouvait pas s'excuser de la décision qu'il avait prise à Cresson puisqu'il ne la voyait pas comme une erreur, mais cela ne l'empêchait pas de souffrir de la déconsidération de l'équipage. Mais cela, c'était avant l'accident. Il était assis sur le pont, sa main blessée posée sur ses genoux. Vivacia n'avait pas besoin de le regarder pour savoir que lui aussi contemplait l'horizon lointain. Les îlots devant lesquels il passait ne l'intéressaient pas. Par une journée pareille, Althea aurait été appuyée au bastingage, les yeux avides. Il avait plu la veille et les nombreux ruisseaux des îlets, grossis, roulaient comme des torrents. Certains sinuaient sur des terrains faiblement pentus, d'autres, sur des îles plus escarpées, formaient des cascades d'argent, et tous déversaient de l'eau douce qui formait une couche moins dense sur les flots salés et changeaient la couleur de la mer sous l'étrave du navire. Ces îles grouillaient d'oiseaux, espèces marines, littorales ou habitantes des hautes falaises, et tous participaient au cœur général. C'était l'hiver, mais dans ces îles, c'était un hiver de pluie et de luxuriance végétale. Plus à l'ouest, les rivages maudits se perdaient dans leur manteau de brouillard, habituel en cette saison. Les eaux fumantes des nombreuses rivières issues de cette côte adoucissaient le climat de la région et environnaient de brume les îles des pirates, où les chutes de neige restaient inconnues grâce à la tiédeur du passage intérieur, qui tenait toujours l'hiver en respect. Pourtant, malgré la verdure attirante de ces îles, Ye Ma n'avait de pensée que pour un port plus lointain, dans le sud, et pour le monastère qui ne s'en trouvait qu'à un jour de marche. Peut-être aurait-il supporté plus facilement sa situation s'il avait eu le moindre espoir d'y faire escale. Mais il n'en était pas question. Son père n'était pas assez stupide pour lui offrir la plus petite occasion de s'esquiver. Le voyage les mènerait dans bien des ports, mais Moal n'en faisait pas partie. Comme si le jeune garçon percevait les réflexions de Vivacia aussi clairement qu'Althea naguère, il posa brusquement le front sur ses genoux pliés. Il se mit à pleurer. Il était au-delà des larmes. Et il en avait assez, à juste titre, des moqueries cruelles de Torg à la moindre manifestation de faiblesse. Vivacia et lui se voyaient donc refuser même cet exutoire au désespoir qui grandissait en lui et menaçait de l'anéantir. Au bout d'un moment, il poussa un grand soupir et ouvrit les yeux. Il regarda sa main aux doigts recourbés posée sur ses genoux. L'accident avait eu lieu 3 jours plus tôt. C'était une mésaventure stupide, comme on s'en rendait presque toujours compte rétrospectivement et très courante à bord d'un navire. Quelqu'un avait lâché un cordage alors que Ye Ma ne s'y attendait pas. Vivacia ne pensait pas qu'il s'agissait d'un acte volontaire. L'équipage ne pouvait lui en vouloir à ce point. Non, ce n'était qu'un accident. La corde de chanvre avait entraîné la main de Ye Ma dans la gorge d'une poulie. Avec une profonde colère, Vivacia se rappelait les paroles de Torg au jeune garçon roulé en boule sur le pont, sa main sanglante serrée contre sa poitrine.
« Ça t'apprendra à faire attention, espèce de sale petit trouillard. T'as de la chance de n'avoir qu'un doigt d'écrasé et pas toute la main. Allez, debout, et remets-toi au boulot. Personne viendra te moucher le nez ni t'essuyer les yeux. »
Et il s'était éloigné pendant que Clément, muet de remords, était venu pour panser la plaie de Ye Ma avec son mouchoir presque propre et la bander pour maintenir le doigt attaché à la main. Clément, qui avait laissé filer la corde que tenait Ye Ma. Clément, qui portait toujours un pansement autour de la poitrine en attendant que ses côtes se ressoudent.
« Je regrette, » dit à voix basse Ye Ma à Vivacia.
Le silence durait depuis un long moment.
Je ne devrais pas te parler sur ce ton. Tu fais preuve de plus de compréhension envers moi que quiconque à bord. En tout cas, tu essaies de comprendre ce que je ressens. Ce n'est pas ta faute si je suis aussi malheureux. C'est seulement que je voudrais être ailleurs. Je sais que si tu étais un autre genre de navire, mon père ne m'obligerait pas à rester ici. C'est donc toi que j'en rends responsable, alors que tu es ce que tu es et que tu ne peux rien y changer.
« Je sais, »
répondit Vivacia d'un ton sans énergie.
Elle ignorait ce qui était le pire, qu'il lui parle ou qu'il se taise.
Il passait 1 heure avec elle le matin et l'après-midi sur ordre de son père.
Pourquoi Kai le forçait-il à cette proximité avec elle ? Espérait-il qu'un lien allait naître par miracle entre eux ? Non, il n'était sûrement pas stupide à ce point-là. Du moins pas au point de croire qu'il pouvait contraindre le jeune garçon à aimer la vive nef. Elle, de son côté, ne pouvait que se sentir unie à lui. Elle se remémora cette nuit qui paraissait si lointaine aujourd'hui, cette nuit de plein été, où il était resté à bord avec elle pour la première fois. Il s'était si bien entendu. Si seulement cette relation avait pu grandir naturellement.
Mais ses regrets étaient vains, tout comme ses pensées quand elle les tournait vers Althea. Comme elle aurait aimé qu'elle fût là. Son absence lui pesait, et bien plus encore sa disparition et les questions constantes qu'elle se posait sur ce qu'elle était devenue. Vivacia soupira.
« Ne sois pas triste, » lui dit Ye Ma.
Et puis il prit conscience de la stupidité de son conseil et il soupira lui-même.
« C'est sans doute aussi dur pour toi que pour moi, » dit-il.
Une foule excessive de réponses se pressa dans l'esprit de Vivacia. et elle préféra n'en choisir aucune. L'eau se fendait en murmurant sous sa proue et la brise régulière la poussait en avant. L'homme de barre pilotait avec compétence, ce qui n'avait rien d'étonnant. C'était un des anciens du capitaine Vestrit et il servait à bord depuis près de 20 ans. La soirée était agréable, à faire ainsi voile au sud en sentant la mer se réchauffer peu à peu. Par contraste, la détresse de Vivacia n'en était que plus douloureuse. Au cours des jours écoulés, Yémin lui avait tenu des propos nés de la colère, de la frustration et de la peine, des propos qu'une partie d'elle-même jugeait avec objectivité. C'était contre son sort qu'il se répandait en reproches, pas contre elle. Pourtant, elle n'arrivait pas à les oublier, et il la fouaillait comme des harpons chaque fois qu'elle se laissait aller à se les rappeler. La veille au matin, à la suite d'un quart de nuit particulièrement pénible, il l'avait invectivée, lui affirmant que ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle était, qu'elle ne participait pas de sa force divine et ne possédait qu'un simulacre de vie et d'esprit créé par les hommes afin de servir leur soif de gain. Ce discours l'avait choquée, horrifiée, mais elle avait été encore bien plus bouleversée quand Kyle, surgissant derrière le jeune garçon, l'avait jeté sur le pont d'un coup de poing, furieux de l'entendre ainsi injurier la vive nef. Après cela, même les hommes les plus bienveillants parmi l'équipage avaient dénigré Yémin, soutenant qu'il allait leur porter malheur par ses discours funestes. Kyle n'avait pas eu l'air de se rendre compte que Vivacia ressentirait le coup qu'il avait donné à Yémin aussi douloureusement que l'enfant lui-même, et il n'avait pas davantage songé que ce n'était peut-être pas le meilleur moyen d'encourager son fils à tisser des liens affectifs avec elle. Non. Kyle avait envoyé le jeune garçon dans la cale exécuter les corvées qu'il détestait le plus, et Vivacia était restée seule à ruminer les propos venimeux de Yémin, en se demandant si, tout compte fait, il ne reflétait pas la réalité. Il l'obligeait à penser. Il la poussait à songer à des choses auxquelles aucun autre Vestrit n'avait jamais accordé la moindre attention sur ses ponts. Il consacrait apparemment la moitié de son temps à réfléchir à la façon dont sa vie s'articulait avec l'existence d'autrui. Elle avait entendu parler de ça, car tous les Vestrites précédents le révéraient eux aussi, mais d'une manière superficielle. Aucun d'entre eux n'avait médité sur la présence du divin, ni cherché à voir son reflet dans la vie de tous les jours. Aucun d'entre eux n'avait cru aussi fermement qu'il existait un honneur et une bonté inhérents à chaque homme, ni nourri l'idée que chacun avait une destinée particulière à accomplir, que chaque vie correctement vécue comblait dans le monde un besoin correspondant qu'elle seule pouvait combler. De ce fait, aucun d'entre eux n'avait connu de déception aussi cruelle que Yémin dans ses relations quotidiennes avec ses semblables. « Je crois qu'on va devoir m'amputer le doigt. » Il avait parlé à mi-voix, d'un ton hésitant, comme s'il craignait de donner de la substance à sa peur en l'énonçant tout haut. Vivacia garda le silence. C'était la première fois depuis son accident qu'il prenait l'initiative d'une conversation. Elle comprit soudain la profonde angoisse qui se cachait derrière la dureté des mots qu'il avait eus pour elle. Elle décida d'écouter afin de lui permettre de partager avec elle ce qu'il parviendrait à exprimer.
Il n'est pas seulement cassé. Je pense que l'articulation a été broyée.
Il employait des termes simples, mais la vive nef percevait la peur glacée qui se levait en dessous d'eux. Il prit son souffle et affronta la réalité qu'il niait jusque-là.
Je le sais depuis que c'est arrivé, je crois. Pourtant, j'espérais toujours, mais je sens ma main qui enfle depuis ce matin, et j'ai une impression d'humidité à l'intérieur du pansement. »
Il baissa encore la voix.
« Quel imbécile je fais. Je me suis occupé de blessures chez les autres, non comme guérisseur, bien sûr, mais je sais nettoyer une plaie et changer un bandage. Mais là, dans le cas de ma propre main, je n'ai pas eu le courage de l'examiner depuis hier soir. »
Il se tut et Vivacia l'entendit avaler sa salive.
« N'est-ce pas étrange ? » reprit-il d'une voix tendue et plus aiguë. J'étais là quand Sa Garit a amputé quelqu'un d'une jambe. Il fallait le faire, c'était évident pour tout le monde. Pourtant, l'homme répétait « Non, non, attendons encore un peu, ça va peut-être s'arranger », alors que son état empirait d'heure en heure. Finalement, sa femme l'a convaincu de nous laisser faire le nécessaire. Je m'étais demandé alors pourquoi il avait tant tergiversé au lieu d'en terminer une bonne fois. Pourquoi s'accrocher à un morceau de chair et d'os pourrissant, simplement parce qu'il a constitué naguère une partie utile de son corps? Sa voix mourut soudain et il se replia de nouveau sur sa main. Alors Vivacia perçut la pulsation de sa douleur, le battement qui répercutait le rythme de son cœur. Ai-je jamais regardé vraiment mes mains, pensé vraiment à elles? Des mains de prêtre. On parle toujours des mains de prêtre. Toute ma vie, j'ai eu des mains parfaites, 10 doigts, tous en état de marche, habiles. Je créais des vitraux. Le savais-tu, Vivacia? Je m'asseyais et je m'absorbais si profondément dans mon œuvre que mes mains travaillaient de leur propre volonté, aurait-on dit. Et maintenant... Il se tut à nouveau. Vivacia prit le risque de parler. Beaucoup de marins perdent des doigts, des membres entiers parfois. Cela ne les empêche pas de...
Je ne suis pas un marin, je suis un prêtre. Je devais devenir prêtre, avant que mon père me condamne à ce sort. Il me détruit, il cherche à m'anéantir. Ces hommes et lui tournent ma foi en dérision. Ils retournent mes idéaux contre moi quand je tente de m'y tenir. Je ne peux pas résister contre lui, contre tous. Ils sont en train de détruire.
Cela n'empêche pas ces marins de rester ce qu'ils sont, amputés ou non, poursuivit Vivacia implacablement. Tu n'es pas un doigt, Yéma. Tu es un homme. Tu te coupes les cheveux, tu te tailles les ongles, et tu demeures quand même, Yéma, un homme. Et si tu es un prêtre, tu le resteras que tu aies 10 ou 9 doigts. Si tu dois en perdre un, tu le perdras. Mais n'en tire pas prétexte pour renoncer à être ce que tu es. Elle s'interrompit, savourant presque le silence stupéfait du garçon. Je ne sais pas grand-chose de ton « ça », Yéma. Mais je connais les Vestrites. Ce que tu dois être, tu le deviendras, que ce soit prêtre ou marin. Alors, reprends-toi, et en avant. Ne laisse pas les autres prendre en main ce que tu es. Façonne-toi toi-même. Sois ce que tu es, et bon gré mal gré, les autres finiront par l'accepter. Et si ta volonté est de te façonner à l'image de ça, fais-le, et sans pleurnicher. Vive Nef. Il avait prononcé le mot à mi-voix, mais on eût dit une bénédiction. Il plaça sa main valide à plat sur le végrage du navire, puis après un instant d'hésitation, sa main blessée. Pour la première fois depuis le départ d'Althea, Vivacia sentit l'un des siens tendre délibérément son esprit vers elle. Yéma ne s'en rendait sans doute pas compte. Peut-être la tête courbée, murmurant tout bas, croyait-il prier ça. Mais quel que fût celui ou celle à qui il demandait sa force, ce fut la vive Nef qui répondit. « Yéma, fit-elle doucement quand il eut fini de chuchoter, va voir ton père et dis-lui qu'il faut t'amputer. Exige que l'opération soit exécutée ici, près de moi, et demande-le en mon nom, si on refuse d'accéder à ton désir. » Elle craignait qu'il hésite, mais non. Il se leva d'un mouvement gracieux et sans un mot, il se rendit au quartier du capitaine, à la porte desquels il frappa 3 coups vifs de sa main valide.
« Entrez !» fit Kyle.
Vivacia ne pouvait pas voir tout ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même, mais elle en avait conscience d'une façon pour laquelle les humains ne lui avaient pas fourni de terme. Elle percevait le bruit de tonnerre que faisait le cœur de Yéma, et capta aussi le petit sentiment de triomphe qu'il éprouva quand son père leva les yeux de ses factures et sursauta en le voyant devant lui, l'air digne.
« Qu'est-ce que tu fais ici ? »
demanda Kyle d'un ton brusque.
Tu es le mousse du bord, rien de plus. Ne viens pas pleurnicher dans ma cabine. »
Yéma attendit que son père eût terminé sa réprimande, puis il dit d'un ton posé « Il faut m'amputer de ce doigt. Il a été écrasé et maintenant l'infection s'installe. Il est évident qu'il ne guérira pas. » Il reprit rapidement son souffle. « J'aimerais qu'on m'opère avant que toute la main soit atteinte. » La voix de Kyle était voilée et son ton hésitant quand il répondit après un long silence.
« Tu en es sûr ? C'est le second qui te l'a dit ? C'est lui qui s'occupe des questions médicales à bord.
L'avis d'un médecin est inutile, voyez-vous-même. »
Et avec une désinvolture qu'il était loin de ressentir, vivacia en était sûr, il se mit à défaire le pansement encrouté de sang. Son père émit un son étranglé.
« Oui, ça ne sent pas bon, »
continua Yéma du même ton détaché.
« Plus vite vous me le couperez, mieux ça vaudra. »
Kyle se leva et les pieds de son fauteuil raclèrent le bois du pont.
« Je vais chercher le second. Assieds-toi, fiston. »
« Je préférerais que vous vous en occupiez vous-même, capitaine, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et sur le pont, près de la figure de proue. »
Vivacia perçut presque le regard calculateur que Yéma promena dans la cabine.
« Ce n'est pas à la peine de mettre du sang partout dans vos quartiers, »
ajouta-t-il comme s'il venait seulement d'y penser.
« Je ne peux pas, je n'ai jamais... »
« Je peux vous montrer où trancher, capitaine. C'est un peu comme découper une volaille pour la marmite. Il suffit de trouver l'articulation. On m'a enseigné à le faire au monastère. Je m'étonnais parfois des points communs qui existent entre la cuisine et la médecine. Les herbes, la connaissance de la viande, les couteaux. »
Vivacia comprit que Yéma lançait une sorte de défi à son père. Elle n'en saisissait pas complètement le sens et se demandait si le garçon lui-même en avait pleinement conscience. Elle s'efforça d'en suivre la logique. Si Kyle refusait d'amputer le doigt infecté de son fils, il perdait. Mais il perdait quoi? Elle n'avait pas de certitude, mais il devait y avoir un rapport avec le fait de savoir qui dirigeait l'existence de Yéma. Le jeune garçon essayait peut-être d'obliger son père à endosser la responsabilité de la vie qu'il lui avait imposée, de le forcer à ouvrir les yeux sur sa dureté. Il y avait aussi dans l'attitude de Yéma l'écho du défi stupide qu'il avait refusé de relever à Cresson, où il aurait été physiquement en danger. Depuis, on le traitait de lâche et on le jugeait incapable d'affronter la douleur. Il allait montrer à tous que ce n'était pas la souffrance qu'il redoutait. Un frisson de fierté le traversa et se transmit à la vive nef. Il était vraiment très différent des autres vestrites qu'elle avait transportées.
« Je vais appeler le second, »
déclara Kyle d'un ton ferme.
« Ce n'est pas lui qui doit m'opérer, »
répondit Yéma à mi-voix.
Sans l'écouter, Kyle ouvrit la porte et cria « Gantry !»
Puis, se retournant vers son fils, il dit « Je suis le capitaine de ce navire, et c'est moi qui décide qui doit faire quoi. C'est le second qui se charge de ce genre de soins, pas moi. »
« J'aurais cru que mon père préférerait s'en occuper lui-même, »
rétorqua Yéma.
« Mais je constate que vous n'en avez pas le courage. »
« Très bien. J'attendrai le second sur le gaillard d'avant. »
« Ce n'est pas une question de courage !»
s'emporta Kyle, et à cet instant, Vivacia entrevit la manœuvre de Yéma. D'une affaire entre le mousse et le capitaine, il avait fait un affrontement entre père et fils.
« Alors venez assister à l'opération, père, pour me donner de la force. » Ce n'était pas une supplique, mais une simple prière.
Il sortit de la cabine sans attendre que son père le congédie, ni même qu'il lui réponde. Comme il s'éloignait, il croisa Gantry, qui répondait à l'appel, et entendit Kyle lui ordonner sèchement d'aller chercher sa trousse de chirurgie et de se présenter sur le gaillard d'avant. Sans s'arrêter, Yéma alla d'un pas mesuré au lieu de rendez-vous.
« Ils arrivent !» murmura-t-il à Vivacia. « Mon père est le second, pour me couper le doigt. J'espère que j'arriverai à ne pas crier. »«
Tu as la volonté nécessaire, »
assura la Viznef. « Pose ta main à plat sur mon pont pendant l'opération. Je serai avec toi. »
Le jeune garçon ne répondit pas. La brise légère qui gonflait les voiles de Vivacia apportait aussi à la nef l'odeur de la transpiration et de la peur de Yéma. Il s'assit et retira les derniers bouts de pansement de sa main blessée.
« Non, » dit-il, et on sentait que son jugement était irrévocable. « On ne peut pas le sauver. Mieux vaut m'en débarrasser avant qu'il infecte tout mon organisme. »
La Viznef le sentit se séparer de son doigt, l'éliminer de la perception de son propre corps. Dans son esprit, l'amputation était déjà effective.
« Les voici, » fit doucement Vivacia.
« Je sais. » Il eut un rire inquiet, glaçant à entendre. « Je les sens à travers toi. »
C'était la première fois qu'il reconnaissait le phénomène. Vivacia regretta qu'il ne l'eût pas fait à un autre moment où il aurait pu en parler en privé ou simplement être seul pour explorer ce lien. Mais les deux hommes avaient atteint le gaillard d'avant et, par réflexe, Yéma s'était dressé d'un bond face à eux. Il tenait sa main blessée dans le creux de l'autre comme une offrande. Kyle le désigna du menton.
« Le mousse croit qu'il faut l'amputer du doigt. Qu'en pensez-vous ? »
Yéma eut la sensation que son cœur cessait un instant de battre. Sans un mot, il tendit la main au second. Gantry la regarda et un rictus de dégoût lui découvrit les dents.
« Il a raison. »
Il s'était adressé au capitaine, non à Yéma. Il saisit fermement le poignet droit du garçon et le retourna pour examiner la blessure sous tous les angles. Puis il émit un grognement écœuré.
« J'aurais deux mots à dire à Torg. Il aurait dû me faire voir cette blessure beaucoup plus tôt. Même si on l'ampute maintenant, le petit va devoir se reposer un jour ou deux. J'ai l'impression que l'infection a gagné le reste de la main. »
« Torg connaît son affaire, » répondit Kyle. « On ne peut pas tout prévoir. »
Gantry soutint le regard de son capitaine et d'un ton posé, il l'observa.
« Mais Torg a un côté vicieux, qui ressort d'autant plus qu'il croit tenir à sa merci quelqu'un de supérieur à lui. C'est pour ça que Brachen est parti. C'était un bon matelot, sauf quand Torg le tourmentait. Lorsque Torg choisit un souffre-douleur, il ne sait jamais quand il doit s'arrêter. »
Gantry poursuivit avec circonspection.
« Je ne fais pas de favoritisme, ne vous inquiétez pas. Je me fiche du nom de ce gosse, capitaine. Pour moi, c'est un membre d'équipage comme les autres. » Et un navire marche mieux quand tout l'équipage est en état de travailler. »
Il s'interrompit, puis répéta
« J'aurai deux mots à dire à Torg. »
Cette fois, Kyle ne réagit pas. Gantry se tourna vers Yéma.
« Tu es prêt ?»
Ce n'était pas vraiment une question, plutôt l'affirmation que le jeune garçon avait reconnu la nécessité d'intervenir.
« Oui. »
La voix de Yéma était à présent basse et grave. Il mit un genou en terre, comme s'il jurait obéissance à quelqu'un, et posa sa main blessée à plat sur le pont de Vivacia. Elle ferma les yeux et se concentra sur le contact, sur les doigts écartés qui appuyaient sur le planchéage du gaillard d'avant. Elle était heureuse qu'il fût en bois sorcier. Il était extrêmement rare qu'on employât un matériau aussi onéreux pour cette partie d'une vive nef. Et aujourd'hui, Vivacia comptait veiller à ce que cette dépense supplémentaire trouve enfin son utilité. Elle ajouta sa volonté à celle de Yéma pour l'empêcher de déplacer sa main.
Le second s'était accroupi à côté de lui et déroulait une trousse de chirurgie en tissu. Les scalpels et les sondes étaient rangés dans des poches, tandis que les aiguilles étaient piquées dans la toile même, certaines déjà pourvues d'un mince filament en boyau de poisson. Comme la trousse achevait de s'ouvrir, les scies apparurent, à voie large ou étroite. Yéma avala sa salive. Gantry disposa la charpie et les bandages de lin à côté des instruments.
« Il va te falloir de l'eau de vie. »
dit l'homme avec rudesse.
Vivacia aperçut au fond de lui un tremblement et se réjouit de constater qu'il ne restait pas complètement insensible à la scène.
« Non, » répondit Yema à mi-voix.
Vivacia prit le risque de le contredire. « Tu en auras peut-être besoin, après. » Il ne protesta pas.
« Je vais en chercher, » fit Kyle d'un ton âpre.
« Non. »
Vivacia et Yema avaient parlé en même temps.
« Je souhaite que vous restiez, » continua la vive nef. « C'était mon droit. » Mais au cas où Kyle ne l'aurait pas su, elle expliqua « Quand vous entaillez la chair de Yema, je saigne. » « C'est une façon de parler, » ajouta-t-elle. Elle maîtrisa sa propre inquiétude avant de poursuivre. « J'ai le droit d'exiger que vous soyez présent à mes côtés quand il se produit un événement aussi dérangeant sur mon pont. »
« On pourrait descendre le mousse dans la cale, » proposa Kyle, bourru.
« Non, » répéta-t-elle. « Si cette mutilation doit avoir lieu, je souhaite qu'elle se passe ici, où je peux en être témoin. »
Elle ne vit pas l'intérêt de lui faire remarquer qu'elle aurait conscience de l'opération ou qu'on la pratique, du moment que ce serait à son bord.
« S'il connaissait si mal sa nature, qu'il continue à croupir dans son ignorance. »
Envoyez un de ceux-là.
Kyle suivit son regard, se retourna et faillit sursauter. La rumeur de l'opération à venir s'était vite répandue, et tous les hommes qui n'étaient pas occupés avaient trouvé un prétexte pour s'approcher du gaillard d'avant. Blême, Clément donna l'impression d'être sur le point de s'évanouir quand Kyle le désigna du doigt.
« Toi, va chercher de l'eau de vie et un verre, vite !»
Le jeune garçon obéit avec empressement, ses talons nus claquant sur le pont. Les autres marins ne firent pas un geste et Kyle ne leur prêta pas la moindre attention. Yema prit une profonde inspiration et, sans manifester qu'il eût remarqué l'attroupement, il s'adressa au second en montrant du doigt sa main droite blessée.
« Il y a un interstice, là, dans l'articulation. C'est là qu'il faut couper. » « Vous devrez y insérer la pointe d'un scalpel et trancher à tâtons, si je puis dire. Si vous palpez votre propre articulation, vous sentirez le point dont je parle. De cette façon, vous ne laisserez pas d'esquille. Ensuite, je vous demanderai de rabattre la peau sur l'espace libéré, puis de la suturer. »
Il s'éclaircit la gorge et parla sans détour.
« Mieux vaut être prudent que trop pressé. Je préfère une coupure propre à un coup de tranchoir. »
Entre chaque phrase, Yema avait repris son souffle pour calmer sa peur. Sa voix ne tremblait qu'imperceptiblement, de même que le doigt qu'il pointait sur l'index de sa main droite, l'index qui, s'il avait pu le conserver, aurait peut-être porté un jour son anneau votif de prêtre.
« Ça, dans ta miséricorde, « empêche-moi de crier. Empêche-moi de m'évanouir et de détourner le regard. Si je dois en passer par là, que ce soit avec dignité. »
Le courant des pensées du jeune garçon était si puissant que Vivacia se retrouva liée à lui. Il prit une dernière inspiration, profonde et apaisante, tandis que Gantry choisissait un scalpel et le lui montrait. C'était un bon instrument, brillant, propre et affûté. Yema hocha lentement la tête.
Derrière lui, il entendit le bruit des pas de Clément qui revenait en annonçant
« Voilà l'eau de vie, capitaine !»
Mais les mots semblaient venir de très loin, aussi ténus et dépourvus de sens que les cris des oiseaux de mer. Vivacia s'aperçut que quelque chose se passait en Yema. À chacune de ses inspirations, les muscles de son corps se relâchaient un peu plus. Il s'amenuisait en lui-même. Ses pensées se figeaient peu à peu, comme s'il était en train de mourir. « Il va perdre connaissance, » se dit la vive nef, et elle se sentit prise de compassion pour lui. Ce qui se produisit ensuite lui fut incompréhensible. il se sépara de lui-même. Il n'avait pas quitté son corps, et pourtant, d'une manière étrange, il s'en était mis à part. Vivacia eut presque l'impression qu'il s'était uni à elle et regardait par ses yeux le mince garçon agenouillé sur le pont, immobile comme une statue. Sa queue de cheval s'était défaite, et des mèches de cheveux dansaient sur son front, tandis que d'autres y restaient collés par la transpiration, mais ses yeux noirs étaient calmes et sa bouche détendue, alors que le scalpel étincelant descendait vers sa main. Quelque part naquit une grande douleur. Mais Yéma et Vivacia continuèrent à observer le second qui forçait sur la lame pour l'enfoncer dans la chair du jeune garçon. Du sang jaillit, rouge vif. « Il est sain », songea Yéma quelque part. « Un beau rouge profond. La couleur est bonne. » Mais il ne prononça pas un mot, et le bruit que fit le second en avalant sa salive fut presque aussi audible que la respiration hachée de Kyle devant le spectacle du scalpel s'introduisant dans l'articulation. Gantry travaillait bien. La pointe effilée de l'instrument s'insinua dans le ligament de la phalange et Yéma sentit physiquement le son qu'elle fit en le tranchant. Ce fut une douleur blanche qui partit de son doigt et remonta, rapide et brûlante, le long de son bras jusqu'à son épine dorsale. Yéma se donna un ordre farouche. « Ne t'en occupe pas !» Et par un effort de volonté comme Vivacia n'en avait jamais vu, il obligea les muscles de son bras à demeurer détendus, sans tressaillir, ni chercher à s'éloigner de la souffrance. Sa seule concession au terrible élancement fut de saisir son poignet droit de la main gauche et de serrer, comme s'il pouvait ainsi empêcher la sensation de se propager. Le sang coulait à foison entre son pouce et son majeur, tiède sur le pont de Vivacia. Le bois sorcier l'absorba, et la vive nef savoura son goût de sel et de cuivre et l'impression d'intimité qu'elle en retira. Fidèle au souhait de Yéma, le second trancha le reste du cartilage qui céda avec un petit bruit de craquement, puis il coupa soigneusement le dernier morceau de peau. Le doigt gisait désormais sur le pont, séparé de son corps, simple morceau de viande. Avec précaution, Yéma le ramassa et le mit de côté, puis, entre le pouce et l'index de sa main gauche, il referma la peau par-dessus la plaie laissée par l'amputation. « Suturez maintenant, » dit-il calmement au second tandis que le sang ruisselait entre ses doigts. « Pas trop serré, juste assez pour tenir la peau fermée sans que le fil la déchire. Employez votre aiguille la plus petite et votre boyau le plus fin. »
Le père de Yéma tout sauta, puis se détourna.
Il se dirigea d'un pas raide vers le bastingage, où il se perdit dans la contemplation des îles, comme si elles exerçaient soudain une profonde fascination sur lui. Le jeune garçon parut ne s'apercevoir de rien, mais Gantry jeta un coup d'œil à son capitaine. Puis il pinça les lèvres, avala bruyamment sa salive et prit une aiguille. Yéma tint lui-même sa propre peau, tandis que le second la cousait, puis nouait les fils. Ensuite, le jeune garçon prit appui sur le pont de sa main gauche couverte de sang, cependant que Gantry fixait un pansement à la place de l'index manquant. Pas un instant il n'eut le moindre mot, ni le moindre geste indiquant qu'il ressentait la plus petite douleur. On aurait pu le croire occupé à ravauder de la toile, se dit Vivacia. Et pourtant non. Quelque part, il était conscient de la souffrance. Son corps la sentait car la sueur avait ruisselé le long de son dos et sa chemise trempée lui collait à la peau. Il éprouvait de la douleur quelque part, mais son esprit s'en était détaché. Ce n'était plus qu'un signal insistant de son organisme, lui signalant une anomalie comme la soif ou la faim, un signal qu'on pouvait négliger quand il le fallait.
« Ah, je vois... »
Ce n'était pas tout à fait exact, mais elle réagissait à ce qu'elle partageait avec lui.
Une fois le pansement terminé, Yémin se redressa, toujours accroupi, sans chercher à se mettre debout. Inutile de tenter le sort. Il avait fait trop de chemin pour tout gâcher en s'évanouissant maintenant. Il accepta le gobelet d'eau-de-vie que Clément lui servit, les mains tremblantes, et l'avala, non d'un trait, mais en trois longues gorgées, comme on boit de l'eau quand on a très soif. Le gobelet était maculé d'empreintes sanglantes quand il le rendit à Clément. Yémin promena son regard sur ce qui l'entourait et lentement ramena sa conscience dans son corps. Il serra les dents pour résister à la vague blanche de souffrance qui montait de sa main. Des points noirs dansèrent un instant devant ses yeux et il les chassa en battant des paupières, puis en se concentrant sur les deux traces de mains sanglantes qu'il avait laissées sur le pont de la Vivacia. Le sang avait imprégné profondément le bois sorcier. Et il comprit, comme la vive nef, qu'aucun ponçage ne ferait jamais disparaître ses marques. Sans hâte, il leva les yeux et regarda autour de lui. Gantry essuyait le scalpel sur un bout de chiffon. Il rendit son regard au jeune garçon, les sourcils froncés mais un petit sourire aux lèvres, et il lui adressa un hochement de tête imperceptible. Clément, toujours livide, écarquillait les yeux. Kyle, debout près du bastingage, contemplait l'horizon.
Je ne suis pas un lâche.
Yémin n'avait pas parlé fort, mais sa voix portait. Son père se retourna, lentement.
Je ne suis pas un lâche,
répéta le garçon en haussant le ton.
Je ne suis pas grand, je ne prétends pas être fort. Mais je ne suis pas non plus un faible ni un lâche. Je peux supporter la douleur, quand c'est nécessaire.
Une lueur étrange s'était allumée dans les yeux de Kyle, et les prémices d'un sourire flottaient au coin de sa bouche.
« Tu es un havre, » fit-il avec un orgueil sobre. Yémin soutint son regard. Sa réponse fut claire, bien qu'on n'y sentît ni provocation, ni volonté de blesser.
« Je suis un Vestrit. »
Il baissa les yeux sur les empreintes de mains sanglantes et sur l'index coupé.
« Vous avez fait de moi un Vestrit. »
Il eut un sourire sans joie ni moquerie.
« Qu'a dit ma grand-mère ? C'est le sang qui parle. » En effet.
Il se baissa et ramassa son propre doigt. Il l'examina soigneusement un moment, puis le tendit à son père.
Cet index ne portera jamais l'anneau de prêtre, dit-il.
À l'entendre, on aurait pu le croire ivre, mais Vivacia savait, elle, que c'était le chagrin qui lui brisait la voix.
« Le voulez-vous, capitaine, comme symbole de votre victoire ?»
Le visage clair de Kyle fonça sous l'effet de la fureur, et Vivacia songea qu'en cet instant, il était tout près de haïr sa propre chair et son propre sang. Yémin s'approcha de lui d'un pas léger, les yeux brillants d'une lumière très étrange. Vivacia tenta de comprendre ce qui se passait. Elle sentait un changement chez lui, une force qui s'ouvrait et l'emplissait. Il plongea le regard dans celui de son père, et c'est sans colère ni même affliction qu'il alla se placer hardiment là où le capitaine pouvait le frapper ou le serrer contre son cœur. Mais Kyle Havre ne fit pas un geste. Par son immobilité, il refusait tout ce qu'était le jeune garçon, tout ce qu'il faisait. Et Yémin comprit alors que jamais il ne plairait à son père, que Kyle n'avait jamais désiré être fier de lui, mais seulement se montrer plus fort que lui. Et il savait désormais qu'il n'y parviendrait pas.
« Non, capitaine ? Ah, tant pis. »
Et avec une désinvolture qui ne pouvait pas être feinte, Yémin se rendit à la proue du navire. Pendant un moment, il examina ostensiblement le doigt qu'il tenait, l'ongle cassé, sali par le travail, la chair écrasée, l'os broyé. Puis, il jeta l'index par-dessus bord comme si ce n'était rien, comme s'il ne lui avait jamais appartenu, et resta là, non pas appuyé au bastingage, mais debout, bien droit, à côté de Vivacia, les yeux braqués vers un horizon lointain, un avenir qu'on lui avait promis, et dont bien davantage que les jours où la distance le séparait à présent. Il vacillait imperceptiblement. Nul ne bougeait ni ne parlait. Même le capitaine se taisait, les yeux vrillés sur son fils comme s'il pouvait le transpercer. Les muscles de son cou saillaient comme des cordes. Ce fut Gantry qui rompit le silence.
« Clément, emmène-le sous le pont et conduis-le à son cadre. Jette un coup d'œil sur lui à chaque heure et viens me chercher s'il a de la fièvre ou s'il délire. »
Il enroula sa trousse et l'agrafa. Puis il ouvrit un coffre et fouilla parmi les fioles et les paquets qu'il renfermait. Sans même lever les yeux, il ajouta d'une voix égale
« Les autres, trouvez de quoi faire, sans quoi c'est moi qui vais vous donner du boulot. »
Il n'eut pas besoin de répéter la menace deux fois. Les hommes se dispersèrent aussitôt. L'ordre qu'il avait donné était simple et entrait dans ses attributions de second, mais il n'avait échappé à personne que Gantry, sans avoir l'air de rien, s'était interposé entre le capitaine et son fils. Il s'y était pris avec autant de diplomatie que pour n'importe quel autre homme qui aurait trop brutalement attiré l'attention de son commandant. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Le second avait adopté assez souvent cette attitude lors des débuts de Kyle en tant que capitaine de la Vivacia. Mais jamais encore il ne s'était immiscé entre le maître du navire et son fils. Il manifestait par là qu'il acceptait Yémin comme un membre à part entière de l'équipage et plus seulement comme l'enfant gâté du capitaine enrôlé pour lui enseigner la discipline. Clément attendit, en se faisant le plus petit possible. Au bout d'un moment, le capitaine Havre s'écarta sans un mot du bastingage et se dirigea vers l'arrière à grandes enjambées. Le jeune marin le regarda s'éloigner, puis détourna brusquement les yeux, comme humilié de voir son commandant battre en retraite dans ses quartiers.
Hé, hey, Clément,
reprit soudain Gantry comme si de rien n'était.
Aide Yéma à déménager son barda et ses affaires de couchage dans le poste d'équipage. Il dormira avec les autres. Une fois qu'il sera installé, donne-lui de ceci. Pas plus d'une cuillerée. Et rapporte-moi le flacon tout de suite après. C'est du laudanum,
ajouta-t-il en haussant la voix à l'intention de Yéma.
Je veux qu'il dorme. Ça accélérera sa guérison.
Il remit la grosse fiole marron à Clément, puis se redressa en coinçant son nécessaire médical sous son bras, et sans un mot de plus, il s'en alla.
« Oui, lieutenant, »
fit Clément. Timidement, il s'approcha de Yémin. Comme l'autre ne faisait pas mine de le remarquer, il rassembla son courage et tira sur sa manche.
« Tu as entendu le second ?»
lui dit-il d'un ton embarrassé.
« J'aimerais mieux rester ici. »
Yémin avait pris une voix rêveuse, et Vivacia comprit. Tôt ou tard, il fallait payer la douleur. Sur le moment, il avait empêché son corps d'y réagir, mais le prix en était à présent un complet épuisement.
« Je m'en doute, »
répondit Clément presque avec bienveillance,
« mais c'est un ordre. »
Yémin poussa un profond soupir et se tourna vers lui.
« Je sais. »
Et avec la docilité qu'induit la fatigue, il suivit l'autre garçon sous le pont. Peu après, Vivacia s'aperçut que Gantry s'était mis à la barre. En général, il faisait cela quand il était troublé et souhaitait avoir le temps de réfléchir. La vive nef songea que ce n'était pas un mauvais second. Brachen était meilleur, mais il avait navigué sur elle plus longtemps. La main de Gantry sur le gouvernail était confiante et ferme, et Vivacia la sentait rassurante, sans méfiance envers elle. Elle ouvrit sa propre main et y jeta un coup d'œil furtif. Le doigt gisait au creux de sa paume. Elle ne pensait pas que quiconque l'ait vu l'attraper au vol.
Elle aurait été bien en peine d'expliquer son geste, sinon pour dire que ce bout de chair avait appartenu à Yéma, et qu'elle répugnait à perdre fût-ce un petit fragment de sa personne. L'index était ridiculement petit à côté de ses propres doigts, plus grands que nature. C'était un bâtonnet d'os enrobé de chair et de peau, avec à une extrémité un ongle finement cannelé. Broyé, couvert de sang, sa délicatesse et ses détails n'en faisaient pas moins pour elle un objet de fascination. Elle le compara avec ses propres doigts et le reste de sa main. Son sculpteur avait fait du bon travail et bien rendu les articulations, les ongles et même les tendons, mais on ne voyait pas de fin réseau de follicules sur la peau, pas de petits poils, pas d'empreinte en forme de spirale sur la pulpe des doigts. Elle avait, songea-t-elle avec regret, qu'une ressemblance superficielle avec une véritable créature de chair et de sang. Elle contempla son trésor encore un moment, puis après un coup d'œil discret vers l'arrière, elle le porta à ses lèvres. Elle ne pouvait pas le jeter à la mer ni le cacher sur elle. Elle le plaça donc dans sa bouche et l'avala. Au goût, elle retrouva l'odeur du sang répandu sur son pont, sel et cuivre, ainsi que curieusement une saveur marine. Le doigt faisait désormais partie d'elle, et elle se demanda ce qu'il allait devenir, tout au fond de son œsophage. À cet instant, elle sentit le bois sorcier absorber le doigt de la même façon que les planches du pont s'étaient imprégnées du sang de Yéma. Elle n'avait jamais rien ingéré d'organique jusque-là, ne connaissant ni la faim ni la soif. Pourtant, en avalant la chair amputée de Yéma, elle sentit qu'elle satisfaisait un besoin pour lequel elle ne connaissait pas de nom. « Nous ne sommes plus qu'un, désormais, » murmura-t-elle pour elle-même. Sur sa couchette du quartier d'équipage, Yéma se tournait et se retournait. Le laudanum atténuait les élancements de sa main, mais ne les calmait pas complètement. Sa chair lui semblait brûlante et sèche, tendue sur les os de son visage et de son bras. « Ne faire qu'un avec ça, » dit-il d'une petite voix fêlée. « Le but suprême d'un prêtre. » « Je ne ferai qu'un avec ça, » fit-il d'un ton plus ferme. « Tel est mon destin. » Vivacia n'eut pas le cœur de le contredire. La pluie tombait, cette pluie battante et sans rémission typique de l'hiver à Terrilleville. Elle coulait sur ses boucles sculptées et dégoulinait de sa barbe sur sa poitrine nue. Parangon croisa les bras, puis secoua la tête, faisant voler de grosses gouttes en tous sens. Il faisait froid. Mais il le savait, c'était une sensation surgie des souvenirs humains qu'il avait engrangés. « Le bois ne peut pas ressentir le froid, » se dit-il. « Je n'ai pas froid. » Non, ce n'était pas une question de température, seulement l'agaçante impression de l'eau qui dégoulinait sur lui. D'une main, il essuya son front ruisselant.
« Je croyais que vous m'aviez dit qu'il était mort. »
fit une voix rauque de contralto non loin de lui, le prenant par surprise. C'est encore un des inconvénients de la pluie. Son crépitement lui emplissait les oreilles et assourdissait les autres bruits plus importants, comme celui de pas sur le sable humide.
« Qui est là ? »
demanda-t-il d'un ton irrité. Mieux valait paraître en colère qu'inquiet aux yeux des humains. Manifester de la peur excitait en général leur audace. Il n'y eut pas de réponse. Il n'en attendait pas vraiment. Le voyant aveugle, l'intruse allait sans doute le contourner discrètement, et il ne saurait où elle se trouvait qu'à l'instant où une pierre le frapperait. Il tendit l'oreille pour capter le bruit de ses pas sournois, mais quand une seconde voix s'éleva, elle était proche de l'emplacement de la première. Il reconnut aussitôt son accent jamélien. C'était Minxley.
« Je pensais qu'il l'était,
Il n'a pas dit un mot ni fait un geste la dernière fois que je suis venu. Dave, enfin, mon intermédiaire, m'avait assuré qu'il était toujours vivant, mais j'en doutais. Eh bien, voici qui donne un nouveau tour à l'affaire. »
Il s'éclaircit la voix.
« Je comprends maintenant pourquoi les Lutchans mettaient tant de mauvaise volonté à traiter. Je croyais faire une offre sur du bois mort, et elle était beaucoup trop basse. Il va falloir que je leur propose un marché plus alléchant. »
« Je crois que j'ai changé d'avis, »
dit la femme à mi-voix. Parangon n'arrivait pas à déterminer quelle émotion elle s'efforçait de contenir. Le dégoût, la peur, il n'en savait rien.
« Je ne tiens pas à être mêlé à tout cela. »
« Mais vous aviez l'air intéressé tout à l'heure, » objecta Mingsley. « Ne faites pas la fine bouche. La figure de proue est vivante, et alors, ça ne fait qu'augmenter nos possibilités. »
« Le bois sorcier m'intéresse, c'est vrai, »
reconnut-elle à contre-cœur.
« On m'en a fourni un petit morceau à sculpter un jour. Le client voulait que je lui donne la forme d'un oiseau. Je lui ai répondu, comme je vous le dis aujourd'hui, que mon œuvre est fonction du bois qu'on me procure, pas de mes caprices ni de ceux du client. Il a insisté. Mais quand j'ai pris le bout de bois, j'ai ressenti de la méchanceté. S'il était possible d'imprégner du bois avec une émotion, je dirais que celui-là avait macéré dans de la pure malveillance. Je ne supportais pas de le toucher, encore moins de le sculpter. J'ai demandé au client de le reprendre.
Mingsley eut un petit rire, comme si la femme venait de lui raconter une histoire drôle.
« Je me suis aperçu, » dit-il d'un ton condescendant, « que le bruit charmant des pièces qu'on empile est le meilleur moyen d'apaiser la sensibilité exacerbée d'un artiste. Je suis sûr que nous trouverons un moyen de contourner vos réticences. Et je vous promets que vous retireriez une somme fabuleuse de ce bateau. Songez à ce que votre travail vous rapporte déjà, alors que vous n'employez que des essences ordinaires. Si vous fabriquiez des perles en bois sorcier, nous pourrions en demander ce que nous voudrions. Et je pèse mes mots. Nous proposerions aux acheteurs des articles qu'on n'a jamais vus ailleurs. Nous formerions à nous deux un cercle unique sur ce marché. Nous, les étrangers, qui aurions su voir ce à côté de quoi les gens du cru sont passés.
Un cercle unique, à nous deux? Alors que nous n'arrivons même pas à nous comprendre?
Le ton de la femme ne laissait pas de place à la discussion, mais Mingsley parut ne pas y prêter attention.
« Regardez-moi ce bois, » fit-il, « ce grain fin et régulier, cette teinte argentée. Je n'ai pas repéré le moindre nœud sur les planches, pas le moindre. On peut faire ce qu'on veut d'un bois pareil. Même si nous détachons la figure de proue et que vous la restauriez pour la vendre à part, il restera suffisamment de bois sorcier sur cette carcasse pour fonder une industrie et pas seulement de perles et d'amulettes, comme aujourd'hui. Il nous faut voir plus grand, fauteuils, chalits, tables magnifiquement sculptées. Tenez, des berceaux. Imaginez le succès. Endormir son premier-né dans un berceau tout en bois sorcier. Ou bien,
l'enthousiasme monta encore dans la voix de l'homme,
vous pourriez sculpter un visage de femme sur la tête du berceau. Nous découvririons comment l'éveiller, puis nous lui apprendrions à chanter des berceuses, et nous aurions un berceau qui chanterait pour endormir les enfants.
Rien que d'y penser, j'en ai le sang qui se glace,
dit la femme.
Vous avez donc peur de ce bois?
Mingsley éclata d'un rire qui évoquait un aboiement.
Ne succombez pas aux superstitions de Terrilleville.
Ce n'est pas du bois que j'ai peur, rétorqua sèchement la femme, mais des gens comme vous. Vous foncez droit devant vous sans regarder où vous allez. Prenez donc le temps de réfléchir. Les marchands de Terrilleville sont les négociants les plus astucieux que cette partie du monde ait jamais connue. Il doit bien y avoir une raison pour qu'ils ne fassent pas le commerce de ce bois.
Vous l'avez vu de vos propres yeux. Cette figure de proue est vivante, mais vous ne vous demandez pas comment ni pourquoi.
Tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est de fabriquer des fauteuils et des tables du même matériau. Et par-dessus le marché, vous vous trouvez devant une créature vivante et vous parlez joyeusement de la débiter pour en faire des meubles.
Mingsley poussa un grognement incongru.
Nous n'avons aucune certitude qu'il s'agisse d'un être vivant, dit-il d'un ton patient.
Soit, il a bougé et il a parlé, mais une seule fois.
Les pantins s'agitent sur leurs bouts de bois, les marionnettes suspendues à leur fil aussi, et les perroquets parlent. Faut-il leur accorder à tous le statut d'humain ?
Demanda-t-il avec amusement.
Et vous voici prêt à user de n'importe quel argument, aussi stupide soit-il, pour obtenir ce que vous désirez de moi ? Je me suis rendu à la muraille nord, là où s'amarrent les vives nefs, et je parie que vous en avez fait autant. Les navires que j'y ai vus sont manifestement vivants.
Ce sont de vrais individus, Mingsley.
Vous pouvez vous mentir, vous pouvez vous persuader de ce que vous voulez, mais n'espérez pas me voir accepter vos mauvais prétextes et vos demi-vérités comme excuses pour travailler avec vous. Non. J'ai été intéressé quand vous m'avez dit qu'il y avait ici une vive nef morte dont on pouvait récupérer le bois, mais c'était un mensonge. Je ne vois pas d'intérêt à rester plus longtemps en votre compagnie sous la pluie. Ce que vous proposez est mal, et je n'y prêterai pas la main.
Parangon entendit la femme s'éloigner à grands pas, et Mingsley lui criait
« Vous êtes une sotte! Vous passez à côté d'une fortune plus grande que vous ne pouvez l'imaginer !»
Les pas s'arrêtèrent. Parangon tendit l'oreille. Allait-elle rebrousser chemin ? Non. Seule sa voix lui parvint, audible sans pourtant être forcée.
Vous faites la confusion entre ce qui est profitable et ce qui est bien. Moi, pas.
Puis, elle repartit. Elle marchait comme un homme en colère. La pluie se mit à tomber encore plus drue. L'impact des gouttes devait être douloureux sur la peau humaine. Parangon entendit Mingsley pousser un grognement mécontent.
« Ah, le tempérament artiste !»
s'exclafa-t-il.
« Oh, elle va revenir !»
Il se tut, puis reprit.
« Vive Nef ? Hé, Vive Nef, tu es vraiment vivante ?»
Parangon préféra ne pas répondre.
Ce n'est pas très malin de faire la fière. Tu m'appartiendras un de ces jours, ce n'est qu'une question de temps. Alors il serait dans ton intérêt de me dire ce que je veux savoir. Es-tu une pièce rapportée de ce navire, ou bien en fais-tu partie intégrante ?
Parangon, le visage battu par la pluie, se tut.
Est-ce que tu mourrais si je te détachais de ta coque ?
Demanda Mingsley d'une voix basse.
« Parce que c'est mon intention. »
Parangon ignorait la réponse à cette question. Aussi dit-il,
« Pourquoi ne t'approches-tu pas pour essayer ?»
Peu après, il entendit l'homme s'en aller. Il demeura là, sous les bourrasques de pluie. Et cette fois, quand il entendit la voix de la femme, il ne fut pas surpris. Il tourna lentement la tête pour mieux percevoir ses paroles.
« Vive Nef ! Vive Nef ! Puis-je m'approcher ?
Je m'appelle Parangon.
Parangon, puis-je m'approcher ? »
Il réfléchit à la demande.
« Ne veux-tu pas dire ton nom ? »
répondit-il enfin. Il sentit une brève hésitation, puis la femme déclara
« Je m'appelle Ambre. » « Mais ce n'est pas ton nom. » « J'en ai porté beaucoup, » fit-elle au bout d'un moment. « C'est celui qui me convient le mieux, ici et maintenant. »
Elle songea qu'elle aurait pu mentir au navire et lui affirmer que c'était bien son nom, mais elle n'en avait rien fait. Il tendit sa main ouverte dans la direction d'où venait la voix de la femme.
« Ambre, » dit-il.
C'était une forme d'acceptation de sa présence, mais aussi un défi. Il savait combien sa main paraissait énorme à côté de celle d'un humain. Une fois qu'il aurait refermé les doigts sur ceux d'Ambre, il pourrait lui arracher le bras d'une simple traction, s'il en décidait ainsi. Il écouta sa respiration mêlée au bruit de la pluie qui grêlait le sable de la grève. Tout à coup, elle fit deux pas dans sa direction et posa sa main gantée dans la sienne. Ses doigts gigantesques emprisonnèrent ceux minuscules d'Ambre.
« Parangon, » dit-elle le souffle court.
« Pourquoi es-tu revenu ?»
Elle eut un rire où perçait de la peur.
« Comme l'a expliqué Mingsley, je m'intéresse à toi. »
Il ne répondit pas et elle poursuivit.
« J'ai toujours été plus curieuse qu'avisée. Cependant, ce que j'ai de sagesse, je l'ai acquis grâce à ma curiosité. Je n'ai donc jamais appris à me défaire de ce travers. »
« Je comprends. Veux-tu me parler de toi ? Comme tu le vois, je suis aveugle. »
« Je ne le vois que trop bien. »
Il y avait de la compassion et du regret dans sa voix.
Mingsley t'a qualifié de laid, mais celui qui a sculpté ton front, ta mâchoire, tes lèvres et ton nez était un maître. J'aurais aimé contempler tes yeux. Quel infâme individu a bien pu détruire une telle œuvre d'art ?
Les paroles d'Ambre émurent Parangon, mais le poussèrent aussi à se rappeler un épisode qu'il ne pouvait pas et ne voulait pas évoquer. D'un ton bourru, il répliqua
« Que de compliments ! Sont-ils destinés à me distraire du fait que tu n'as pas accédé à ma prière ?»
Il lâcha la main de la femme.
« Non, pas du tout. Je m'appelle Ambre. Je sculpte le bois. J'en ai fait des bijoux, des perles, des garnitures pour les vêtements, des peignes et des bagues. Parfois de plus grandes pièces aussi, comme des saladiers ou des coupes, voire des fauteuils et des berceaux, mais c'est rare. Mon talent me porte apparemment à fabriquer des objets de petite taille. Puis-je toucher ton visage ? »
La question était venue si abruptement qu'il acquiesça avant d'avoir eu le temps de réfléchir.
« Pourquoi ? »
demanda-t-il un peu tardivement. Il la sentit se rapprocher de lui. La faible chaleur de son corps fit écran au froid de la pluie, et ses doigts effleurèrent le bout de sa barbe. Le contact avait été très léger, mais il déclencha un frisson en lui.
C'était une réaction trop humaine. S'il en avait été capable, il se serait écarté.
« Je n'atteins pas ton visage. Peux-tu... aurais-tu la gentillesse de me hisser ?»
La confiance absolue dont elle faisait preuve fit oublier à Parangon qu'elle n'avait pas répondu à sa première question.
« Je pourrais t'écraser dans ma paume, » lui rappela-t-il.
« Mais tu n'en feras rien, » fit-elle avec assurance. « Je t'en prie. »
Le ton pressant de sa prière l'effraya.
« Pourquoi crois-tu que je n'en ferai rien ? J'ai déjà tué, tu sais, des équipages entiers. Tout Erilville est au courant. Qui es-tu pour ne pas me redouter ?»
En guise de réponse, elle posa sa main nue et humide sur son bras, et il sentit sa chaleur comme un éclair dans le grain de son bois, de même que la chaleur d'une main féminine sur la cuisse d'un homme peut enflammer le corps tout entier. Et il comprit soudain que la sensation se produisait dans les deux sens. Il était dans sa chair autant qu'elle était dans son végrage. L'humanité d'Ambre chantait en lui, et il baignait dans ses sens. La pluie avait trempé les cheveux et les vêtements de la femme, et il lui collait au corps. Sa peau était froide, mais son organisme la réchauffait de l'intérieur. Parangon sentait l'air qui entrait dans ses poumons, comme autrefois le vent dans ses voiles, le flot du sang dans ses veines, presque comme l'eau de la mer qui passait en sifflant le long de sa coque.
« Tu es plus que du bois !»
s'exclama la femme. Parangon sentit la curiosité dans sa voix, et il connut soudain la terreur de la trahison. Elle était en lui. Elle en voyait trop, en apprenait trop. elle réveillait tout ce qu'il avait chassé de sa conscience. Il l'écarta de lui un peu trop vivement et elle poussa un cri en atterrissant sur le sable humide de la grève. Il l'entendit reprendre son souffle en haletant tandis que la pluie continuait à tomber sur eux.
« Tu es blessé ?»
demanda-t-il d'un ton bourru au bout d'un moment. Le calme revenait en lui.
« Non !»
répondit-elle à mi-voix. Puis, avant qu'il eût le temps de s'excuser, elle continua.
« Je regrette. Je m'attendais malgré tout à ce que tu ne sois que du bois. J'ai un don pour le bois. Quand je le touche, je le connais. Je sais où son fil se tord, où le grain est fin et grossier. Et je pensais qu'en te touchant, je sentirais à quoi ressemblaient tes yeux. Je croyais ne trouver que du bois. Je n'aurais pas dû me montrer aussi. Pardonne-moi, je t'en prie.
« Ce n'est pas grave, »
répondit-il d'un ton posé.
« Je ne voulais pas te repousser aussi brutalement. Je n'avais pas l'intention de te faire tomber. »«
Non, c'était ma faute. Tu as eu raison de me repousser, je... »
Elle s'interrompit, et l'espace de quelques instants, on n'entendit plus que le crépitement de la pluie. Le ressac était plus fort, la marée avait tourné et la mer montait.
« Pouvons-nous recommencer, s'il te plaît ? »
demanda-t-elle tout à coup.
« Si tu veux, »
répondit-il d'un ton embarrassé.
Cette femme, il ne la comprenait pas du tout. Elle lui avait fait confiance si promptement, et voici qu'elle était déjà en train de transformer leur relation en amitié.
Il n'était pas habitué à ce genre de situation, surtout quand elle se produisait aussi rapidement.
Cela l'effrayait, mais l'idée qu'Ambre pût s'en aller pour ne jamais revenir l'effrayait plus encore.
Il chercha en lui-même quelques bribes de confiance à lui offrir en échange.
« Aimerais-tu entrer, te mettre à l'abri de la pluie ? »
demanda-t-il.
« Je donne épouvantablement de la bande et il ne fait pas plus chaud à l'intérieur qu'au dehors, mais au moins tu seras au sec. »
« Oui, merci, »
répondit-elle à mi-voix.
« Ça me plairait beaucoup. »